Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier qui, franchement, m'a laissé un peu sans voix. On va parler d'un projet qui prétend carrément bousculer une loi fondamentale de la physique.
Oui, et pas n'importe laquelle. Une règle qui est là depuis près de 200 ans.
C'est ça. En fait, depuis 1831, on a cette découverte de Michael Faraday qui dicte comment fonctionne absolument chaque moteur électrique sur notre planète. Et cette règle, elle crée une sorte de plafond de verre, un mur implacable pour leur rendement. C'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice.
Le fameux BACIMF, pour utiliser le terme anglo-saxon.
Exactement. Et pendant 2 siècles, tout le monde s'est dit que c'était une limite impossible à franchir. Mais notre exploration du jour s'appuie sur une pile de documents assez incroyables concernant le projet Infinix. C'est un moteur qui, selon son inventeur, aurait trouvé une faille dans cette mécanique centenaire.
Et il se serait carrément affranchi de cette force de freinage, oui.
Mais en fait, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est pas juste la physique derrière la machine. Enfin, c'est passionnant, bien sûr. Mais la vraie intrigue, le focus de notre analyse aujourd'hui, c'est la stratégie de diffusion du projet. C'est de voir par quels moyens inédits, presque subversifs, l'inventeur a décidé de partager sa découverte pour forcer le monde à l'écouter.
Bah oui, parce que quand tu as une découverte qui prétend renverser un paradigme scientifique aussi énorme, le parcours classique, normalement, c'est de passer par des institutions très codifiées, de publier dans des grandes revues.
Ouais, le circuit traditionnel, quoi.
Voilà. Sauf qu'ici, l'inventeur Christophe Tétard, il a dû inventer son propre système de validation. Une sorte de guérilla scientifique pour transmettre son savoir. Et les sources qu'on va décortiquer illustrent parfaitement cette méthode de diffusion assez géniale.
Et d'ailleurs, le corpus de sources qu'on a pour cette analyse est super riche. On a un petit guide de vulgarisation très malin qui s'appelle Infinix pour les nuls. On a aussi une publication scientifique hyper rigoureuse dans laboratoire indépendant, les Faraday Labs.
Très pointue celle-là.
Ouais, très ardue. On a également le compte-rendu d'une conférence publique qui s'est tenue le 18 juillet 2026 en Vendée. Et le témoignage vidéo d'un docteur en physique. Donc, notre mission, c'est de disséquer tout ça pour comprendre comment diffuser une idée révolutionnaire quand on ne fait pas partie du sérail académique.
Et pour bien comprendre comment il a diffusé ça, il faut d'abord s'arrêter sur le pourquoi. Pourquoi il a dû contourner le système ?
Bah oui, pourquoi ne pas juste publier un papier comme tout le monde ?
Parce qu'il a essayé, en fait. L'histoire d'Infinix, c'est d'abord 22 ans de recherche en solitaire, 22 années à faire des tests dans l'ombre, avec des bobines, des aimants. Et quand il a enfin réussi à consolider un protocole qui prouvait l'absence de ce frein magnétique, il a fait ce que n'importe quel chercheur ferait. Il a soumis ses travaux à des revues scientifiques, à comités de lecture.
Et là, j'imagine, c'est la douche froide.
Porte close. Rejet total.
Mais attends, c'est parce que ses calculs étaient faux. Le papier des Faraday Labs laisse entendre l'inverse, non ?
Exactement. Et c'est ça qui est dingue. Le papier n'a pas été rejeté sur le fond. Les relecteurs n'ont pas trouvé de faille dans le protocole expérimental ou d'erreur mathématique. Le blocage, c'est ce qu'on appelle en sociologie des sciences l'effet Mathieu.
L'effet Mathieu ?
C'est-à-dire ?
En gros, c'est un biais institutionnel. Le monde académique va accorder énormément d'attention et de crédit à des chercheurs qui ont déjà une notoriété ou qui viennent d'une institution prestigieuse. Si tu n'as pas le logo du MIT, du CNRS ou d'un grand labo industriel sur la première page de ton étude, ton papier a de grandes chances de finir à la poubelle sans même être lu sérieusement.
Ah ouais, c'est un délit de sale gueule académique, quoi. C'est un peu ça, oui. Après, il faut aussi être juste avec ses relecteurs. Ils sont complètement sous l'eau. Ils reçoivent des milliers de soumissions dans beaucoup de théories complètement farfelues, tu sais, sur le mouvement perpétuel, l'énergie libre, magique, ce genre de choses.
Ouais, du coup, la filiation, c'est un filtre.
Voilà, c'est un raccourci mental pour faire le tri. C'est le système immunitaire du monde académique. Mais le problème, c'est que ça bloque aussi les vraies découvertes indépendantes. Et généralement, face à ce mur, le chercheur isolé finit par se décourager et abandonne.
Mais là, il y a eu un événement déclencheur qui a tout changé, c'est bien ça ?
Tout à fait. Et c'est d'une brutalité très humaine, en fait. Les notes de la conférence et la publication scientifique parlent d'un accident de la vie grave. En 2025, l'inventeur est tombé dans le coma pendant plusieurs mois.
Oh, waouh ! Plusieurs mois ?
Oui. Et sortir d'une épreuve pareille, ça change totalement ta perspective sur le temps. L'œuvre de toute une vie prend une autre dimension.
J'imagine que l'idée d'attendre sagement qu'un comité daigne lire son papier n'était plus vraiment une option.
C'est exactement ça. C'est devenu une urgence viscérale. S'il disparaissait, ses 22 années de travail disparaissaient avec lui. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom du projet.
Infinix ?
Oui, c'est la contraction de l'infini et du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. La confrontation avec la mort, ça agit comme un catalyseur. L'objectif n'était plus de convaincre un petit comité d'experts, mais de transmettre l'information par tous les moyens possibles avant qu'il ne soit trop tard.
Tiroir, au final, elle n'existe pas. Ça me fascine cette idée que la survie d'une idée dépend de sa transmission. Et du coup, c'est là qu'il déploie sa fameuse stratégie de diffusion hybride.
Voilà, il s'est retrouvé avec un sacré défi. Comment s'adresser en même temps à deux publics qui n'ont absolument rien à voir ?
D'un côté, le grand public, les bricoleurs, les curieux, et de l'autre, les labos de recherche qui veulent des maths et de la rigueur.
Exactement. Et la première brique de cette diffusion, c'est pour le grand public. C'est le fameux guide Infinix pour les nuls.
Ah, ce document est génial. Il fait 16 pages et il y a une promesse dès l'introduction qui m'a fait sourire. C'est zéro équation avant le chapitre 10. Pour un truc qui parle d'électromagnétisme hyper complexe, c'est un pari super audacieux.
C'est de la vulgarisation pure. Et pour que ça marche, le guide utilise des analogies ancrées dans le quotidien de tout le monde.
Notamment pour expliquer cette fameuse force de freinage, le bac EMF, l'analogie de la dynamo de vélo, je l'ai trouvée brillante. En fait, si on imagine un vieux vélo avec une dynamo qui frotte sur le pneu pour allumer la lumière, eh ben, l'expérience est universelle. Plus tu pédales vite pour avoir de la lumière, plus c'est dur.
Oui, tu sens vraiment une résistance physique dans les pédales.
C'est ça, t'as l'impression qu'une force invisible te tire en arrière, et c'est exactement ce qui se passe dans un moteur électrique, non ?
Tout à fait. C'est le principe de conservation de l'énergie, la loi de Lenz-Faraday. N'importe quel moteur classique, dès qu'il tourne, il se comporte comme un générateur. Le rotor tourne dans un champ magnétique, ce qui crée un courant induit, et ce courant crée à son tour un champ magnétique qui va s'opposer au mouvement initial.
Donc, plus le moteur va vite, plus il crée son propre frein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
C'est ça. La résistance est inévitable. Du moins, c'est ce qu'on croyait.
Et c'est là que le guide InfiniQX explique la parade, sans pour autant briser les lois de la thermodynamique. C'est super bien amené. Il ne s'agit pas de lutter par la force brute, mais d'utiliser le courant électrique comme un simple interrupteur, un signal de commande.
Oui, le guide parle d'une annulation locale du champ magnétique par superposition. C'est un concept subtil.
Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, cette superposition à aimant ?
Bien sûr. Dans un moteur normal, on envoie du gros courant dans une bobine pour repousser un aimant. Dans le moteur Infinix, on a des aimants permanents en néodyme, qui sont très puissants, et qui sont placés de façon à ce que leurs champs interagissent déjà entre eux. L'astuce, c'est que le courant qu'on envoie dans la bobine ne sert pas à pousser, mais juste à créer un petit champ magnétique secondaire.
Et ce petit champ, il sert à quoi du coup ?
Son seul but, c'est de neutraliser ou de dévier le champ principal de l'aimant pendant un instant très bref.
D'accord, c'est l'analogie du casque à réduction de bruit qu'on trouve dans les sources. En fait, le casque écoute le bruit ambiant et envoie une onde sonore inverse pour l'annuler, on n'entend plus rien. Là, l'impulsion électrique envoie un champ inverse qui annule temporairement la résistance magnétique.
Exactement. Le champ opposé éteint le frein pendant une fraction de seconde. Et grâce à l'inertie et à l'attraction des autres aimants, le rotor continue de tourner sans subir cet effet de freinage interne. Le courant donne juste une sorte d'autorisation de passage aux aimants.
C'est élégant, franchement. Et en simplifiant ça comme ça dans le guide, il s'assure qu'un très large public peut comprendre l'enjeu. Mais bon, un guide PDF, même bien écrit, ça ne suffit pas pour convaincre que la machine marche vraiment.
Non, il fallait prouver que ça fonctionne dans le monde physique, et c'est là qu'intervient le deuxième canal de diffusion, l'événementiel en direct.
Ah oui, la fameuse conférence du 18 juillet 2026. Ça s'est passé en Vendée, à la Ferrière. C'est marrant parce qu'on est très loin de l'ambiance d'un séminaire universitaire à Paris ou à Boston. C'était organisé avec l'association Atlas, qui milite pour les technologies libres.
Oui, l'approche est totalement décomplexée. Il a mis le moteur, ouvert et fonctionnel, au beau milieu d'une table, entouré par le public.
Pas de boîte noire, pas de triche possible. Les adhérents pouvaient le voir tourner de leurs propres yeux. Et ils avaient aussi invité la presse alternative, comme le magazine de Nexus.
Ce qui n'est pas anodin, car c'est une presse très suivie par les personnes intéressées par les sciences non conventionnelles. Et surtout, ils ont filmé la démonstration. Un compte-rendu vidéo de 25 minutes a été envoyé individuellement à tous les membres de l'association.
Ça, en termes de stratégie de diffusion, c'est malin. Ils ne s'adressent pas à une foule anonyme, ils créent une véritable armée de petits ambassadeurs. Des gens qui peuvent dire « j'y étais, j'ai vu la machine, ce n'est pas une arnaque sur YouTube ou une simulation 3D ».
C'est un ancrage dans le réel indispensable. Mais tu as raison de soulever un point important. Convaincre des passionnés autour d'une table, même avec la meilleure volonté du monde, ça ne suffit pas pour valider une théorie scientifique aux yeux des chercheurs.
Ben oui, parce qu'un physicien académique, il va te dire « c'est bien beau votre tour de magie en Vendée, mais moi il me faut des données chiffrées ».
Voilà. Et l'inventeur le savait très bien, c'est pour ça qu'il a activé son volet de diffusion destiné spécifiquement au laboratoire. La stratégie open source.
Et c'est là qu'on retrouve la fameuse publication scientifique, celle-là même qui avait été rejetée à cause de l'effet Mathieu. Il l'a balancée en libre accès sur le net, en français et en anglais, pour toucher l'international.
Avec toutes les équations mathématiques qui manquaient dans le guide pour les nuls. Mais le vrai coup de génie de cette publication, ce sont ses annexes et le chapitre 8.
Le protocole de réplication. C'est littéralement une recette de cuisine pour scientifiques. J'ai trouvé ça fascinant de voir à quel point c'est détaillé. Il ne garde aucun secret.
Absolument aucun. Il précise la force exacte des aimants en néodyme allant du grade N35 au N52 pour bien prouver que l'effet fonctionne quelle que soit la puissance. Il détaille les contacts glissants en charbon, l'alimentation électrique spécifique à utiliser et même au millimètre près où brancher les sondes de l'oscilloscope.
Et le protocole demande même de construire d'abord un moteur classique défectueux, enfin avec le freinage normal, juste pour voir le bac EMF sur les écrans, et ensuite de modifier l'assemblage avec la superposition pour voir le frein disparaître en temps réel.
C'est une méthode empirique parfaite. L'inventeur refuse d'aller débattre sur des plateaux télé. Il dit en substance « ne me croyez pas sur parole, prenez le manuel, achetez les pièces et vérifiez par vous-même, dans vos labos, que vous soyez à Berlin, Tokyo ou dans le fond de votre garage. »
Il décentralise la charge de la preuve. C'est brillant. Mais en lisant ça, je me suis posé une question énorme. Publier sur Internet le plan complet d'un moteur qui pourrait, je ne sais pas, révolutionner les transports, l'aéronautique, tout, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de se faire piller par des grandes multinationales ?
Bah, c'est le grand paradoxe de l'open source. Si tu donnes tout gratuitement, une grande entreprise peut prendre ta technologie, l'améliorer un tout petit peu, déposer un brevet par-dessus et interdire à tout le monde de l'utiliser.
Ce serait un désastre total pour son projet.
Oui, mais l'inventeur avait anticipé ça. Et c'est le troisième volet de sa diffusion. C'est l'ingénierie légale. C'est un aspect fondamental. Il a déposé un brevet à l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI.
Ah d'accord, le 9 juillet 2026, c'est ça?
Exactement, quelques jours seulement avant la conférence publique.
Mais attends, tu ne m'as pas dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas breveter une loi de la physique?
On ne peut pas, c'est vrai. Le principe d'annuler un champ magnétique par superposition, c'est naturel, comme la gravité. C'est imbrevetable. Ce qu'il a breveté, ce n'est pas le principe, c'est l'application concrète, l'architecture spécifique de sa machine.
L'arrangement du stator, du rotor, le placement précis des aimants, quoi.
Voilà. Et la subtilité, c'est l'usage qu'il fait de ce brevet. Normalement, tu déposes un brevet pour avoir un monopole et vendre très cher des licences. Lui, il utilise ce qu'on appelle un brevet défensif.
Un bouclier juridique, en gros.
C'est tout à fait ça. En déposant ce document à l'INPI, juste avant de tout publier en accès libre, il crée ce qu'on appelle une preuve d'antériorité.
D'accord, donc il plante un petit drapeau dans le temps pour dire « j'étais là en premier et c'est public ».
Exactement. Et en droit de la propriété intellectuelle, ça empêche n'importe quel géant industriel ou patent troll de venir breveter la même chose plus tard. Ils ne peuvent plus s'approprier la technologie car elle appartient officiellement à l'état de la technique publique.
C'est verrouillé. Mais pour rester ouvert, le chapitre 9 du guide résume ça super bien. Ils disent que c'est une découverte, je cite, « offerte, pas vendue ». C'est un don à l'humanité, carrément.
Avec une note d'intention très claire. Hein. Il confie le bébé aux Fab Labs, aux chercheurs indépendants. Et il précise que si l'homme décide d'utiliser cette technologie pour faire n'importe quoi, eh bien ce sera la faute de la nature humaine, pas celle de la science ouverte. Il accepte le risque.
C'est une sacrée philosophie du détachement. Il refuse de garder le secret, même au risque que ça lui échappe. Et ce détachement, ça a l'air de bien résonner avec les scientifiques qui ont pris le temps de vraiment regarder le dossier sans leurs œillères académiques.
Tout à fait. Et c'est là que le témoignage du docteur en physique qu'on a dans nos sources prend tout son sens.
Ce témoignage vidéo est fascinant. Le type a un pédigré académique impeccable, donc il sait de quoi il parle. Et pourtant, il dit un truc étonnant sur l'attitude qu'il faut avoir face à ce moteur.
Oui, il explique que même si l'invention a mis plus de 20 ans à voir le jour, son concept final est d'une simplicité enfantine. Et surtout, il insiste sur le fait qu'il faut aborder cette machine sans aucun ego.
l'ego du scientifique. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, ça.
Le vernis académique, les titres prestigieux, ça peut devenir de vraies œillères. Si tu abordes un phénix en te disant « c'est impossible, ça viole Faraday, j'ai pas appris ça à l'école », tu passes à côté.
D'où sa super métaphore de l'enfant dans le bac à sable. J'ai adoré ça. Il dit qu'il faut redevenir un gamin qui joue avec des pelles et des seaux. Tu observes l'interaction des aimants, tu mesures le courant, tu constates l'effet, point barre. Tu t'en fiches de savoir si la personne qui a construit le bac à sable a un doctorat ou non.
C'est une image puissante. En fait, face à la citadelle académique hyper protégée dont on parlait au début, l'inventeur d'Infinitalk n'a pas essayé d'en défoncer la porte. Il a juste construit un immense bac à sable géant devant les douves de ce château fort et il a invité tous ceux qu'il voulait à venir jouer.
À venir expérimenter eux-mêmes, et ça valide à 100% le ciblage de sa diffusion Atlas. En s'adressant aux membres d'Atlas, aux makers, des Fab Labs, il parle à des gens qui sont motivés par la curiosité pure, des bidouilleurs prêts à, tu sais, enrouler du fil de cuivre sur la table de leur cuisine juste pour voir si ça marche. Eux, ils n'ont pas la pression de devoir publier dans Nature ou Science pour sauver leur carrière.
Exactement. Et quand tu regardes la stratégie dans sa globalité, c'est presque une œuvre d'art en ingénierie sociale.
Ouais, un plan à 360 degrés. On résume un peu. Il y a d'abord l'association Atlas et sa bibliothèque numérique Alexandrie pour créer une vraie communauté. Ensuite, le guide pour les nuls qui enlève toutes les maths pour éduquer les citoyens. Puis, le protocole hyper rigoureux en open source pour apporter des preuves irréfutables au labo. Et enfin, le fameux brevet défensif à l'INPI pour protéger tout ça juridiquement.
C'est une démonstration éclatante que la transparence radicale peut vaincre l'inertie du système. Le projet Infinix nous montre comment l'accès libre à l'information permet de contourner les plus grands blocages institutionnels.
Le message de fond, c'est de ne croire personne sur parole. Ni l'inventeur génial dans son garage, ni la grande revue scientifique réputée. Si tu veux savoir, tu prends un oscilloscope et tu mesures toi-même.
Parce que la connaissance, au fond, ce n'est pas un trésor fragile qu'on doit cacher derrière des murs. C'est une matière première. Elle ne prend de la valeur que si elle est testée, tordue et éprouvée par un maximum de monde.
Et ça met vraiment en lumière la fragilité de ceux qui pensent détenir le monopole du savoir. Quand un inventeur décide de boycotter le système qu'il a rejeté et donne les clés directement aux citoyens pour qu'ils vérifient eux-mêmes, c'est toute la mécanique de la découverte scientifique qui tremble.
Absolument. Ça remet en question la façon dont on valide l'innovation aujourd'hui.
D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. On vient de voir comment Infinix a contourné les gardiens du temple en créant son propre écosystème de validation par le bas. Mais et si c'était ça le futur de la science? Et si demain, le modèle de validation par les revues à comité de lecture, qui est lent et plein de biais de carrière, disparaissait complètement? Si la vérité scientifique émergeait uniquement grâce à une réplication participative massive, menée par des milliers de labos indépendants et de citoyens équipés de leurs propres outils, la citadelle académique n'aurait même plus besoin de verrouiller ses portes. Elle serait juste devenue un musée. Bonne réflexion et à la prochaine!